Leçon 4, le déluge. Samedi après-midi. Texte à mémoriser. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 37. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Genèse 6, au verset 5. Le verbe « vit » en Genèse 6, verset 5, ramène le lecteur à chaque étape de la création initiale de Dieu. Mais ce que Dieu voit à présent, au lieu de Tov, le bien, est devenu Ra, mal. C'est comme si Dieu avait regretté d'avoir créé le monde, maintenant plein de Ra. Genèse 6, au verset 6 et 7. Et pourtant, le regret de Dieu comporte également des éléments de salut. En hébreu, le terme pour regretta, nakam, fait écho au nom de Noé, Noach, qui signifie consolation. Genèse 5 au verset 29. Ainsi, la réponse de Dieu à cette méchanceté a deux aspects. Elle contient la menace de la justice qui conduit à la destruction pour certains, et cependant, sa réponse promet aussi la consolation et la miséricorde qui conduit au salut pour d'autres. Sa double voix s'est déjà fait entendre avec Caïn et Abel, 7, et elle se répéta à travers le contraste entre les deux lignées de Seth, les fils de Dieu, et Caïn, les fils des hommes. Nous l'entendons de nouveau ici, tandis que Dieu fait la distinction entre Noé et le reste de l'humanité. Dimanche 17 avril. Préparation pour le déluge. Lisez Genèse 6 au verset 13 à 7, verset 10. Quelle leçon peut-on tirer de ce récit extraordinaire sur le début de l'histoire humaine? Comme Daniel, Noé est un prophète qui prédit la fin du monde. Le mot en hébreu pour arche, teva, dans Genèse 6 au verset 14, est le même mot d'emprunt égyptien employé pour l'arche dans lequel Moïse fut caché, bébé et préservé pour sauver Israël de l'Égypte. Exode 2, verset 3. De plus, certains ont vu dans la structure générale de l'arche des parallèles avec l'arche du tabernacle dans Exode 25 au verset 10. Tout comme l'arche du déluge permit la survie de l'humanité, l'arche de l'Alliance, signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple, selon Exode 25 au verset 22, renvoie à l'œuvre du salut de Dieu pour son peuple. La phrase « Noé fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné » selon Genèse 6 au verset 22, conclut la partie préparatoire. Le verbe « assa »,« fit », en parlant des actions de Noé, répond au verbe « assa »,« fait », suivant l'ordre de Dieu qui a débuté cette partie et qui est répété à 5 reprises en Genèse 6, verset 14 à 16. Cet écho entre l'ordre de Dieu et la réponse de Noé indique l'obéissance absolue de Noé à ce que Dieu lui avait dit de faire de Assa. Il est également intéressant que cette phrase soit également employée dans le contexte de la construction de l'Arche de l'Alliance, dans Exode 39 au verset 32, 42 et Exode 40 au verset 16. Dieu donna lui-même à Noé les dimensions exactes de cette arche ainsi que d'autres directives très détaillées. La sagesse humaine aurait été incapable de concevoir un bâtiment d'aussi vaste proportion et d'une pareille résistance. Si Noé le construisit, Dieu en fut l'architecte. Ellen White, patriarche et prophète, page 69. À nouveau, le parallèle entre les deux arches réaffirme leur fonction rédemptrice comme l'obéissance, et Noé est ainsi décrit comme faisant partie du plan du salut. Noé fut sauvé simplement parce qu'il avait eu foi de faire ce que Dieu lui avait ordonné de faire, voir Hébreux 11 au verset 7. C'était un des premiers exemples de foi qui se manifeste par l'obéissance, le seul genre de foi qui compte, Jacques 2 au verset 20. En bref, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, Genèse 6 verset 8, mais c'était une réponse à cette grâce qu'il avait déjà reçue, que Noé agit fidèlement et avec obéissance aux ordres de Dieu. Ne devrait-il pas en être de même pour nous tous? Lisez 2 Pierre 2 au verset 5 à 9. Pourquoi la seule famille de Noé fut-elle sauvée? Quelle leçon peut-on en tirer de l'histoire, celle de Noé, concernant notre rôle pour avertir le monde du jugement à venir? Lundi 18 avril, le déluge. Le verbe « assa », faire, qui renvoie aux actions de Noé, est également un mot-clé dans le récit de la création de la Genèse, Genèse 1, versets 7, 16, 25, 26, 31 et Genèse 2 au verset 2. Les actes d'obéissance de Noé sont comme les actes de création de Dieu. Ce que l'on peut retirer de ce lien, c'est que le déluge ne se limite pas à Dieu qui punit l'humanité, car c'est aussi Dieu qui nous sauve. Lisez Genèse 7. Pourquoi la description du déluge nous rappelle-t-elle le récit de la création? Quelles leçons peut-on tirer des parallèles entre les deux événements? Si on lit attentivement le texte qui couvre le déluge, on constate l'emploi de nombreux mots et expressions communes avec l'histoire de la création. 7. Genèse 7, versets 2, 3, 4, 10, et voir aussi Genèse 2, versets 1 à 3. Mâle et femelle, Genèse 7, versets 2, 3, 9, 16, Genèse 1, verset 27. Selon leur espèce, Genèse 1, verset 14, voir Genèse 1, versets 11, 12, 21, 24, 25, des bêtes, des oiseaux, tout ce qui fourmille, Genèse 7, versets 8, 14, 21, 23, voir aussi Genèse 1, versets 24 et 25, et souffle de vie, Genèse 1, versets 15 et 22, et Genèse 2, verset 7. L'histoire du déluge se lit ainsi, un peu comme l'histoire de la création. Ces deux échos du récit de la création contribuent à révéler que le Dieu qui a créé est le même que le Dieu qui détruit. Mais ces échos communiquent également un message d'espoir. Le déluge est conçu pour être une nouvelle création à partir des eaux, création qui conduit à une nouvelle existence. Le mouvement des eaux montre que cet événement de création inverse en réalité l'acte de création de Genèse 1. Contrairement à Genèse 1, qui décrit une séparation des eaux qui sont au-dessus et qui sont en dessous, selon Genèse 1, verset 7, le déluge implique leur réunion, car elles débordent de leurs limites, Genèse 1 au verset 11. Ce processus véhicule un message paradoxal. Dieu doit d'abord détruire ce qui est là pour permettre une nouvelle création par la suite. La création de la nouvelle terre exige la destruction de l'ancienne. L'événement du déluge préfigure le salut futur du monde à la fin des temps. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Apocalypse 21 au verset 1, Ésaïe 65 au verset 17. En nous, qu'est-ce qui a besoin d'être détruit pour pouvoir être recréé de nouveau? Voir Romains 6 au verset 1 à 6. Mardi 19 avril, la fin du déluge. Genèse 7 au verset 22 à 24 décrit l'effet important et global du déluge qui fit disparaître tous les êtres humains qui étaient à la surface du sol. Genèse 7 au verset 23. Et dura 150 jours. Genèse 7 au verset 24. C'est dans ce contexte d'anéantissement et de désespoir total que Dieu se souvint. Genèse 8 au verset 1. Cette expression est située au centre des textes qui parlent du déluge, ce qui indique que cette idée est le message central du récit du déluge. Lisez Genèse 8 au verset 1. Que signifie « Dieu se souvint de Noé » Le verbe « zakar », « se souvenir », signifie que Dieu n'avait pas oublié. C'est plus qu'un exercice mental. Dans le contexte biblique, le Dieu qui se souvient signifie l'accomplissement de sa promesse et renvoie souvent au salut. Voir Genèse 19 au verset 29. Dans le contexte du déluge, Dieu se souvient signifie que la pluie cessa, Genèse 8 au verset 2, et que Noé pourra bientôt quitter l'arche, Genèse 8 au verset 16. Bien qu'aucun ordre direct ne fût donné de partir, Noé prit l'initiative et envoya d'abord un corbeau, puis une colombe pour évaluer la situation. Finalement, quand la colombe ne revint pas, il comprit que les eaux avaient séché sur la terre. Noé retira la couverture de l'arche et vit. Genèse 8 au verset 13. Le comportement de Noé est riche d'enseignements pratiques. D'une part, il nous enseigne à faire confiance à Dieu même s'il ne parle pas directement. D'autre part, la foi ne remet pas en cause la valeur de la réflexion et de l'évaluation. La foi n'exclut pas la responsabilité de réfléchir, de rechercher et de voir si ce que nous avons appris est vrai. Et pourtant, Noé ne sort que quand Dieu enfin lui dit de le faire. Genèse 8 au verset 15 à 19. C'est-à-dire que même quand il sait qu'ils peuvent sortir de l'arche, Noé se fie encore à Dieu et attend son signal avant de le faire. Il attend patiemment dans l'arche. Entrer dans l'arche selon l'ordre de Dieu, il n'en sortirait que sur sa permission. Finalement, un ange descendit du ciel, ouvrit l'énorme porte du vaisseau et invita Noé et sa famille à quitter leur abri et à libérer tous les êtres vivants qu'ils renfermaient. Ellen White, Patriarche et Prophète, pages 81 et 82. Lisez Genèse 8 au verset 1, Genèse 19 au verset 29 et Psaume 106 au verset 4. Que signifie l'expression « Dieu se souvient » ? Qu'est-ce que cette vérité signifie pour nous ? C'est-à-dire, de quelle manière Dieu vous a-t-il montré qu'il se souvient de vous ? Mercredi 20 avril, l'Alliance, première partie. C'est maintenant le moment où l'Alliance promise devait s'accomplir. Mais j'établirai mon Alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Genèse 6 au verset 18. Par opposition à la menace divine de destruction, selon Genèse 6 au verset 17, cette alliance est la promesse de vie. Lisez Genèse 8 au verset 20. Que fit Noé en premier quand il sortit de l'arche et pourquoi ? Comme Adam et Ève qui adorèrent certainement Dieu pendant le sabbat juste après les 6 jours de la création, Noé adora Dieu juste après le déluge, autre événement de création en soi. Il y a une différence entre ces deux actes d'adoration. Contrairement à Adam et Ève qui adorèrent le Seigneur directement, Noé dut recourir à un sacrifice. C'est la première mention d'un autel dans la Bible. Le sacrifice est un holocauste, hola. Le sacrifice le plus ancien et le plus fréquent. Pour Noé, ce sacrifice était une offrande d'action de grâce, voire, Nombre 15, versets 1 à 11, offerte pour exprimer sa gratitude au Créateur qui l'avait sauvé. Lisez Genèse 9 au verset 2 à 4. De quelle manière le déluge a-t-il affecté le régime alimentaire humain ? Quel est le principe derrière les restrictions de Dieu ? À cause des effets du déluge, les végétaux n'étaient plus disponibles comme avant. Par conséquent, Dieu permit aux humains de manger de la chair animale. Ce changement de régime généra un changement dans les relations entre humains et animaux, par opposition à ce qu'elle avait été dans la création originelle. Dans le récit de la création humaine et animaux, partageaient le même régime alimentaire végétal et n'étaient pas une menace les uns pour les autres. Dans le monde post-diluvien, le fait de tuer les animaux pour les manger impliqua une relation de crainte. Genèse 9 au verset 2. Une fois qu'ils commencèrent à se manger les uns les autres, humains et animaux développèrent sans nul doute une relation tout à fait différente de ce qu'ils avaient connu en Éden. Cependant, la tolérance de Dieu comptait deux restrictions. D'abord, les animaux n'étaient pas tous propres à la consommation. La première restriction était implicite dans les distinctions entre animaux purs et impurs qui faisaient partie de l'ordre de la création. Voir Genèse 8, versets 19 et 20, Genèse 1, versets 21 et 24. La deuxième explicite et nouvelle était de s'abstenir de la consommation du sang car la vie est dans le sang. Genèse 9 au verset 24. Jeudi 21 avril. L'Alliance, deuxième partie. Lisez Genèse 8, versets 21 à 9 au verset 1er. Quelle est la signification de l'engagement de Dieu à préserver la vie? En quoi la bénédiction de Dieu accomplit-elle cet engagement? L'engagement de Dieu à préserver la vie était un acte de grâce. Ce n'était pas le résultat des mérites humains. Dieu décida de préserver la vie sur terre malgré tout le mal que font les humains. Genèse 8 au verset 21. Genèse 8 au verset 22 dit littéralement « tant que seront les jours sur la terre », c'est-à-dire aussi longtemps que cette terre actuelle demeurera, les saisons se succéderont et la vie sera maintenue. En bref, Dieu n'a pas abandonné sa création. En fait, le texte suivant qui parle de la bénédiction de Dieu nous ramène à la création originale avec sa bénédiction. Genèse 1, verset 22, 28 et Genèse 2, verset 3. Le Seigneur, en un sens, donnait à l'humanité une chance de tout recommencer, de prendre un nouveau départ. Lisez Genèse 9, au verset 8 à 17, quelle est la signification de l'arc-en-ciel? En quoi ce signe d'alliance est-il lié à l'autre signe d'alliance, le sabbat? L'expression « établie alliance » est répétée trois fois dans Genèse 9 au verset 9, 11 et 17, marquant le point culminant et l'accomplissement de la promesse initiale de Dieu dans Genèse 6 au verset 18. À la suite de la partie précédente qui fait écho au sixième jour du récit de la création, cette partie coïncide avec la partie qui couvre le septième jour du récit de la création, le sabbat. Comme le sabbat, l'arc-en-ciel est le signe de l'Alliance, Genèse 9 au verset 13, 14 et 16, voire Exode 31, verset 12 à 17. De plus, comme le sabbat, l'arc-en-ciel a une portée universelle. Il s'applique au monde entier. Tout comme le sabbat, signe de la création, est pour tous, partout, la promesse qu'aucun autre déluge mondial ne se produira plus, est également pour tous, partout. La première fois que vous voyez un arc-en-ciel, réfléchissez à toutes les promesses que Dieu vous a faites. Pourquoi peut-on faire confiance à ces promesses et en quoi l'arc-en-ciel nous montre-t-il que nous pouvons leur faire confiance? Vendredi 23 avril. Pour aller plus loin. Une comparaison entre la mentalité et le comportement des gens et l'état du monde avant le déluge d'une part et ceux des gens de notre époque de l'autre est particulièrement instructive. C'est certain, la méchanceté humaine n'est pas un phénomène nouveau. Voyez le parallèle entre leurs époques et la nôtre. L'iniquité qui perdit les antédiluviens règne actuellement dans le monde. Les hommes ont banni de leur cœur la crainte de Dieu. Sa loi est traitée avec indifférence, sinon avec mépris. La mondanité effrénée de notre génération ne le cède en rien à celle qui caractérisait le temps de Noé. Jésus n'entendait pas condamner les antédiluviens de ce qu'ils mangeaient et buvaient. Où ils péchaient, c'était en usant de ses bienfaits sans gratitude envers celui qui les le prodiguait et en se livrant sans retenue à la satisfaction de leur appétit. Il était légitime de se marier, puisque le mariage remonte à la création du monde et que Dieu, son auteur, l'a entouré des dispositions destinées à conserver la beauté de la sainteté. Mais ces règles avaient été oubliées et le mariage avait été perverti et transformé en un moyen d'assouvissement des passions. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'un même état des choses. Le vol, la fraude et la concussion s'installent sans pudeur en haut lieu, comme dans les bas-fonds de la société. Les organes de la presse pullulent en récits d'homicides. L'esprit d'anarchie qui fermente chez tous les peuples et dont les explosions intermittentes font frémir le monde nous donne une idée de la violence du feu qui, le moment venu, éclatera, couvrant notre terre de ruines et de désolation. Le tableau du monde antédiluvien qui nous a laissé la parole inspirée ne dépeint que trop parfaitement la condition vers laquelle marche à grands pas la société moderne. Les crimes perpétrés journellement dans nos pays réputés chrétiens sont aussi hideux et révoltants que ceux qui amenèrent l'extermination des pécheurs de l'Ancien Monde. Ellen White, Patriarche et prophète, pages 76 et 77. À méditer, quelles sont les caractéristiques communes entre la société antédiluvienne et la nôtre? Que nous enseignent ces caractéristiques communes sur la grâce de Dieu, qui malgré tout cela, aime le monde et cherche encore à sauver ce qu'il peut? Certaines personnes avancent que le déluge de Noé n'était qu'un événement local. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette idée? Si c'était cela, pourquoi chaque déluge localisé et chaque arc-en-ciel ferait-il de Dieu un menteur ?